Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette soirée du mardi 16 novembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence par un tir de missile.
Un missile russe qui a détruit hier un vieux satellite soviétique en orbite. Colère de Washington, de la NASA et de l'OTAN qui dénoncent un test irresponsable mettant en danger notamment l'équipage de la Station Spatiale Internationale. Les fragments ne représentaient aucune menace selon Moscou. Nous y serons en début de journal. L'Azerbaïdjan et l'Arménie au bord d'un nouvel affrontement un an après la fin de la guerre. 15 soldats arméniens sont morts aujourd'hui. Explication à suivre. À suivre aussi Emmanuel Macron qui annonce près de 2 milliards d'euros pour financer des projets d'hydrogène vert. À son procès en appel, François Fillon maintient que son épouse a bien travaillé à ses côtés. Et puis pour finir, le portrait de la future star du salon de l'agriculture. Une jolie vache qui répond au doux nom de Neige.
À 18h15, un jour dans le monde, c'est en Bosnie que nous allons. Et pourquoi faire? Eh bien parce que 26 ans après les accords de Dayton, après une guerre aux portes de l'Europe qui a fait 100 000 morts, certains cherchent à faire voler en éclats une architecture fragile. À 19h20, le téléphone sonne alors que l'hypothèse d'une cinquième vague de Covid est bien là. L'hôpital veut redire combien il est malade, combien les conditions de travail sont rudes au point que les jeunes médecins hospitaliers démissionnent. On les attend, on vous attend. Ce soir, au téléphone sonne, un lit sur 5 fermé en France. L'hôpital a eu son Ségur de la santé, c'est vrai, mais les hospitaliers ne tiennent pas. 01 45 24 7000. Quand un tir de missile, donc, contre un satellite vire à la crise diplomatique.
La Russie a en effet déclenché la fureur des États-Unis hier après un test de missile dans l'espace. Le missile en question a pulvérisé un vieux satellite soviétique des années 80 à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, provoquant un nuage de débris potentiellement dangereux pour l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et d'autres satellites en orbite. Comportement dangereux, selon Washington, le patron de la NASA lui s'est dit scandalisé. Quant au chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, il dénonce un acte irresponsable. On l'écoute.
Cela a généré de nombreux débris, créant un risque pour la station spatiale internationale, mais aussi pour la station chinoise. C'était un acte irresponsable, qui est préoccupant, à la fois parce que les débris représentent un risque pour les activités humaines dans l'espace, mais également parce que cela démontre que la Russie développe actuellement de nouveaux systèmes d'armement qui peuvent détruire des satellites ainsi que des capacités spatiales utilisées pour des infrastructures essentielles sur Terre, comme des systèmes de communication, la navigation ou des systèmes d'alerte de tir de missiles.
Voilà le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, des propos recueillis par Angélique Bouin. Ce tir relance les inquiétudes de voir l'espace se transformer en un champ de bataille entre les grandes puissances afin de tester notamment de nouvelles technologies militaires. Alors qu'en pensent les Russes? Après une journée de silence, le ministère russe de la Défense reconnaît avoir tiré contre l'un de ses satellites, mais Moscou dénonce les déclarations, je cite, hypocrites des Américains à Moscou. C'est la correspondance de Sylvain Tronchet.
C'est un vieux satellite datant de l'époque soviétique, mis en orbite en 1982, qui a été pulvérisé par un missile hier soir, a donc finalement reconnu le ministère de la Défense russe. Moscou a pourtant souvent dénoncé les risques de militarisation de l'espace et s'est par le passé prononcé contre le développement de ce type d'armes. Mais si l'on en croit le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, la responsabilité de ce tir incombe aux Américains qui, dit-il, ont refusé les propositions de la Russie pour mettre fin à la course aux armements dans l'espace. Pour Moscou, les critiques des Américains sont hypocrites. Ils savent parfaitement que les débris ne présentent aucune menace, affirme le ministère de la Défense. Les Russes font référence au fait que les USA ont également déjà effectué ce genre de tir, tout comme l'Inde et la Chine. À Pékin ce soir, un porte-parole du gouvernement s'est bien gardé de tout commentaire quand il a été interrogé sur le sujet. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Les risques de guerre là sont bien réels au Nagorno-Karabakh, cette région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, presque un an après la fin du conflit sanglant de 6 semaines entre les deux pays. Une escalade militaire depuis ce matin fait craindre le pire, une reprise des combats. Le Parlement arménien parle de la mort de 15 soldats dans des accrochages avec des militaires de l'Azerbaïdjan. Le président du Conseil européen appelle, lui, à une désescalade urgente. Les précisions de Valérie Crova.
Les combats se déroulent dans la région du Syunik, dans le sud de l'Arménie, à la frontière de l'Iran, une région stratégique. L'Azerbaïdjan cherche à ouvrir un corridor qui permettrait d'assurer une continuité territoriale allant de la Turquie, alliée de Bakou, à l'Asie centrale, en passant par la mer Caspienne. Ces affrontements interviennent après plusieurs semaines de tensions entre les deux anciennes républiques soviétiques. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement de tirs de part et d'autre de la frontière en fin de semaine dernière. Face à ce qu'elle considère comme une agression, l'Arménie a demandé à la Russie de l'aider à défendre son intégrité territoriale. La Russie, qui possède une base militaire sur place, n'a pour l'heure pas répondu à l'appel d'Erevan. Cette nouvelle flambée de violence illustre l'équilibre précaire qui règne dans la poudrière du Caucase, un an pratiquement jour pour jour après la fin de la guerre qui avait opposé les deux voisins au Nagorno-Karabakh. Une guerre dont Bakou était sorti vainqueur, l'Arménie ayant été contrainte de rétrocéder plusieurs régions à l'Azerbaïdjan.
Valérie Krova, autre point chaud dans cette région du globe, la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. C'est côté polonais aujourd'hui que la tension est remontée. La police polonaise dit avoir tiré des gaz lacrymogènes et avec des canons à eau contre des migrants attaquant les forces de l'ordre à coups de pierre. Un policier polonais aurait été grièvement blessé.
Direction la ville de Béziers, retour en France donc, où Emmanuel Macron était aujourd'hui en visite.
Pas pour rencontrer son maire, Robert Ménard, mais pour lancer en grande pompe une filière d'hydrogène vert. Le chef de l'État a donc été accueilli malgré tout par l'élu d'extrême droite qui a salué le courage, dit-il, du président de venir dans sa ville. Un salut présidentiel rapide avant qu'Emmanuel Macron ne s'engouffre dans l'usine Genvia, une start-up locale développant des machines permettant de produire de l'hydrogène vert, pas issu en clair d'une énergie fossile. Cette filière est au cœur d'une nouvelle stratégie du chef de l'État, réconcilier, dit-il, l'aventure industrielle, la croissance avec la décarbonation de nos économies. 1,9 milliard d'euros y seront consacrés dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Alors comment la France compte-t-elle s'y prendre pour développer cette nouvelle filière ? Élément de réponse avec Delphine Simon.
Pour l'instant, l'hydrogène dans l'industrie n'est pas vert, il est gris, voire carrément noir. Pour décarboner la sidérurgie ou la chimie, il faut des quantités massives d'électricité. De l'électricité pauvre en CO2, la France n'en manque pas, grâce au nucléaire et aux renouvelables, explique l'Élysée. C'est aussi une question de souveraineté, répète Emmanuel Macron. Nos voisins, comme l'Allemagne, prévoient d'importer cet hydrogène propre. La France, elle, compte le produire sur place. Or, pour l'instant, ce n'est pas rentable. Les technologies ne sont pas opérationnelles. L'État va donc aider l'industrie à développer une filière, à fabriquer des électrolyseurs, ces machines qui transforment l'eau en hydrogène grâce à l'électricité. L'ambition de la France serait de parvenir à créer 5 gigafactories d'ici 2030, des usines géantes d'électrolyseurs avec à terme 50 à 100 000 créations d'emplois. Une filière à laquelle le plan de relance prévoit déjà d'accorder 7 milliards d'euros. Vu l'enjeu, Emmanuel Macron vient de rajouter près de 2 milliards supplémentaires.
Delphine Simon, les Français ont bien vu leur pouvoir d'achat augmenter depuis le début du quinquennat, mais pas les plus pauvres. C'est la conclusion de l'Institut des politiques publiques qui donne des chiffres un peu différents de ceux du gouvernement. Selon l'IPP, tous les ménages auront vu leur niveau de vie progresser d'environ 1,6% depuis 2017, sauf les 5% des ménages les plus pauvres qui, eux, ont perdu 0,5% en moyenne. À l'inverse, les 1% les plus riches ont engrangé la plus importante progression avec un gain moyen de 2,8%, on y revient en détail dans le journal de 19h d'Hélène Philly. Au procès en appel des époux Fillon pour soupçon d'emploi fictif qui s'est ouvert hier, la cour est entrée cet après-midi dans le vif du sujet avec l'interrogatoire de Pénélope Fillon sur la réalité de ses emplois d'assistante parlementaire ainsi qu'à la revue des deux mondes entre 1998 et 2013. Auparavant, François Fillon a tenu à faire une déclaration liminaire, c'est le compte-rendu de l'Aurélie Carive.
Je voudrais vous dire la vérité que je ne suis pas parvenu à dire en première instance, entame l'ancien Premier ministre d'une voix grave. François Fillon lit la feuille de papier posée devant lui. Mon épouse m'a assisté dans le cadre de mon engagement politique. Elle a été rémunérée comme des centaines d'autres conjoints l'ont été pour un travail semblable. Je n'ai pas été un député fictif, préoccupé uniquement par l'argent. François Fillon énumère ensuite ses nombreux regrets. Regrets de ne pas avoir compris assez tôt la suspicion que pouvait éveiller dans l'opinion l'embauche de ses proches. Regrets pour sa famille politique, regrets regret, surtout pour son épouse, jetée en pâture, dit-il, marquée à vie par cette affaire. Pénélope Fillon est ensuite appelée à la barre pour s'expliquer sur ses différents contrats depuis les années 80. Elle, qui avait été mise en difficulté lors du premier procès, se montre plus assurée. « Je me suis toujours considérée comme l'assistante qui était sur le terrain dans la Sarthe », lance-t-elle. « Dès lors, pourquoi avoir dissimulé une activité tout à fait admissible ?» l'interroge le président. « Les Sartois sont des gens discrets », répond la prévenue. « Ils n'aiment pas qu'on prenne la grosse tête ». Au palais de justice, Laurélie Carif pour France Inter.
Au chapitre judiciaire, encore les charges qui s'alourdissent contre le footballeur français Benjamin Mendy, accusé de viol. Deux nouveaux viols lui sont reprochés par la justice anglaise. En détention provisoire depuis 3 mois, il est désormais inculpé pour 6 viols et une agression sexuelle commis entre octobre 2020 et août 2021. Les 34 000 membres de l'influente association des maires de France réunis aujourd'hui pour élire le successeur de François Baroin, l'actuel patron de l'AMF. Le scrutin qui s'annonce très serré entre David Lisnard, le maire LR de Cannes, adoubé par le président sortant, et Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. Et verdict demain.
Les maires qui s'inquiètent de voir des mariages avec des cortèges de plus en plus dangereux.
Oui, il est de plus en plus fréquent de voir des rodéos de voitures accompagner les jeunes mariés dans certaines communes, au point que le maire de Poissy, dans les Yvelines par exemple, a décidé de serrer la vis. Il demande 1000 euros de caution avant le mariage, pas plus de 50 personnes et 2 policiers municipaux équipés de caméras. Des mesures drastiques pour tenter d'éviter les débordements qui ne touchent pas seulement la région parisienne. Béatrice Duguay.
Cortège bruyant de voitures avec des jeunes gens juchés sur les vitres arrière. Des feux grillés, pas de ceinture, mais aussi excès de vitesse ou à l'inverse, cortège qui bloque la circulation sur les autoroutes ou dans les centres-villes. Certaines fêtes débordent donc franchement ces derniers mois, que ce soit sur la rocade de Lyon, en centre-ville de Romans dans l'Isère, dans les tunnels de Marseille ou à Méry-sur-Oise, commune de 10 000 habitants, où Pierre-Édouard Héon, le maire, évoque une scène d'émeute en septembre dernier.
Effectivement, on n'avait jamais vu des gendarmes mobiles casqués, armés de flashballs, de boucliers avec des chiens et devant utiliser des gaz lacrymogènes pour faire en sorte que la situation redevienne normale.
À Nice, les incivilités ont carrément viré au drame samedi. Un jeune homme a perdu la vie en tombant d'une des voitures. Ailleurs, ce sont les PV qui tombent et même les gardes à vue à Poissy pour le dernier incident en date. Les débordements ne se cantonnent plus dehors, déplore Carl Olive, le maire.
Maintenant, ces incivilités s'invitent à l'intérieur de la salle des mariages. D'abord avec près d'une heure, une heure et quart de retard. L'impossibilité pour mon élu et mon agent de l'état civil de faire régner un tout petit peu d'ordre simplement pour se faire entendre.
Et puis des menaces et des insultes. Du coup, il sévit.
Aucun état d'âme a finalement proposé un pacte de confiance pour que ce jour de fête ne devienne pas un jour de défaite.
Dans la nouvelle charte des mariages, cette caution, 2000 euros, dispositif en test jusqu'en juillet prochain.
Voilà le reportage de Béatrice Duguay.
Allez, on termine Sébastien avec une belle bête. Elle pèse 700 kilos, elle répond au donou, au dounou. J'en étais sûr, de Neige.
Neige qui est une vache laitière de race Abondance, élevée sur les alpages des Aravis, dans la station du Grand Bornand. Neige sera l'égérie du prochain salon de l'agriculture. Marie Ameline a rencontré son papa, enfin plutôt son éleveur.
Sa robe est rouge à cajou, mais son prénom évoque le blanc. Elle s'appelle Neige car...
Elle est née sur une piste de ski.
Donc Philippe Missilier, son éleveur, n'est pas allé chercher plus loin que ses alpages des Aravis pour baptiser sa vache, aujourd'hui distinguée entre toutes ses congénères, pour son bon caractère et...
Une très bonne mamelle. C'est une attache avant qui va loin sous le ventre, une attache arrière très haute et avec un faible volume, parce que nos vaches sont dans les alpages. Et on recherche une mamelle, on va dire, en dessus du jarret, pour éviter que les mamelles traînent par terre et qu'elles soient souillées par la terre ou quoi que ce soit.
C'est ça, le bon sens pratique du montagnard, qui assure que d'ici son heure de gloire parisienne, Neige n'aura droit à aucun traitement de faveur, ou presque.
La seule chose qui risque de changer un tout petit peu pour elle, c'est qu'on va la promener certainement plus souvent dehors. Que les jours où il fasse froid, pas la laisser trop longtemps pour pas qu'elle attrape un coup de grippe ou quelque chose comme ça. Mais sinon, non, sa vie va pas changer. Elle sera peut-être brossée un petit peu plus souvent. Voilà.
Pour admirer les bonnes mamelles de Neige et découvrir cette race Abondance dont vous dégustez le lait dans le Beaufort, la Tomme ou le Reblochon, rendez-vous au Salon de l'Agriculture fin février.
Voilà, du 26 février exactement au 6 mars prochain.
Sébastien Longenis, merci beaucoup. À tout de suite dans Un jour dans le monde ce soir dans Sous les radars. Vous nous emmenez notamment dans une seule duels de boxe mythiques à Bangkok. Ce soir, nous allons en Bosnie dans Un jour dans le monde qui vit des Roland Dangereux des années 90. Et puis en deuxième heure, c'est le téléphone sonne. On parle de l'hôpital ce soir dont on avait pu dire après la première vague de Covid et puis le Ségur aussi, les revalorisations salariales, qu'il sortait la tête de l'eau. Eh bien, pas du tout. Il est sous l'eau, manque de lits, un lit sur cinq fermé, manque de personnel. Et c'est le diable, évidemment, qui se mord la queue, si bien que les médecins, même les médecins, jettent l'éponge et partent travailler ailleurs. On vous attend au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, bonsoir. Un temps souvent gris demain et dans le sud-est en particulier.
Oui, bonsoir à tous. Alors on aura effectivement un ciel souvent gris demain matin avec quelques gouttes possibles. De petites pluies éparses toujours l'après-midi au programme, mais quand même des éclaircies qui reviendront de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France avec un ciel qui retrouvera des couleurs. En revanche, autour de la Méditerranée, le soleil sera là dès le matin avec du vent mistral tramontane jusqu'à 90 km à l'heure. Mais sur la Corse, ça restera instable avec des averses, voire un orage.
Température sans grand changement ?
Ça bougera peu en effet. Alors quelques degrés de plus tout de même sur le nord-ouest, mais quelques-uns de moins pour la Méditerranée. Il fera 8 à 11 degrés sur les régions de l'Est, 10 à 15 ailleurs et 17 à 19 sur la Côte d'Azur et sur la Corse.
Élodie Calac de Météo France. Merci beaucoup Élodie. À tout à l'heure après 19h.